on a eu l'occasion de rencontrer le groupe en 2012. Ouais. Pour le précédent, quoi de neuf depuis ?
Bah écoute, depuis pas mal de taf. On a pas mal mûri depuis le dernier album, que ce soit dans la composition ou dans la tête des mecs. Et puis voilà, un nouvel album, Pandore, qui arrive le 11 décembre.
D'accord. Si on essaie de faire un peu la synthèse de la période rock.fr, qu'est-ce que tu peux nous dire et si tu avais à garder un souvenir
sur la tournée de rock.fr
ouais, enfin, ou la tournée, l'enregistrement, enfin toute cette période-là.
Alors en fait, moi je suis arrivé après l'enregistrement de rock.fr, c'est pas moi qui ai enregistré rock.fr.
D'accord.
Par contre, j'ai participé à la tournée et donc effectivement, s'il y a un événement qui m'a marqué, c'est bien le Sonisphère parce que c'était mon premier concert de ma vie, enfin le deuxième. Donc voilà.
D'accord, avec une. Enfin bon, c'est avec une grande foule, avec un stress, enfin ça s'est passé comment?
Ouais, ça fait bizarre. Quand t'arrives au Sonisphère, tu te sens tout petit et en face t'as des groupes comme Marilyn Manson, Faith No More qui jouent, donc tu te sens bizarre et t'as un gros stress, c'est vrai. Kouros me disait que j'étais super pâle derrière ma batterie, donc c'est vrai que ça fait bizarre, mais c'est super plaisant.
D'accord, donc pour un peu mieux te connaître, tu peux nous parler un peu de toi, ton parcours, pourquoi la batterie, enfin voilà, comment c'est venu?
Ouais, alors j'ai commencé par la guitare en fait, mon père étant guitariste et mon oncle aussi, j'ai commencé par la guitare donc. J'ai commencé seulement la batterie à l'âge de 15 ans, où j'ai commencé par du black metal majoritairement, après je me suis étendu dans les styles, voilà, après... À l'âge de 18 ans, bah, je suis rentré dans InCry.
D'accord, donc c'est ton premier vrai grand groupe sérieux?
Ouais, voilà, tout à fait. Avant, c'était des petits projets, donc on faisait des fêtes de la musique, des choses comme ça. Et puis depuis 2012, bah, InCry, Sirius.
D'accord, et donc c'est effectivement assez différent de toute ta musique extrême, ou même en termes de rythme, c'est pas tout à fait le même...
Ouais, carrément, c'est clair que tu fous pas de la double pédale partout, comme dans le black metal, faut soutenir un peu et mettre un peu de groove et punch, voilà, tout simplement.
D'accord. Donc le troisième là, donc Pandore, a priori est toujours en autoprod.
Ouais, tout à fait.
C'est une démarche consciente du groupe ou c'est parce que ils n'arrivaient pas à décrocher un contrat satisfaisant?
Bah, le truc c'est qu'InCry, comme on a l'habitude de dire, a le cul entre deux chaises, quoi. On fait pas un style qui existe déjà. Sans s'en vanter, hein, on dit pas qu'on a créé un style ou quelque chose comme ça, mais c'est dur de démarcher les labels quand tu fais un style un peu atypique qui existe pas vraiment. Et c'est vrai que pour stratégiquement parlant, il y a une plus grande liberté que si tu avais un label. Mais on sait qu'on a encore des choses à prouver et on désespère pas de trouver un label, pourquoi pas un jour, c'est clair.
Donc pour celui-ci, vous avez aussi démarché?
Oui, on a démarché, effectivement.
D'accord, ok. Donc toi, c'est ta première expérience avec le groupe, ou peut-être même en général. Qu'est-ce que tu peux nous dire en général des sessions d'enregistrement pour Pandore?
Alors, les sessions d'enregistrement se sont faites différemment des deux premiers albums. Pour Face au mur et Rock.fr, le groupe avait l'habitude de se réunir pour composer justement dans une salle. Là, la façon de composer était totalement différente. C'est-à-dire que même les morceaux ont été composés bien avant qu'on... Enfin, sans les jouer, tu vois ce que je veux dire. On les a composés sans les jouer sur un ordinateur, en fait. Nous, m'envoyait des riffs de guitare et moi, je lui renvoyais avec une partie de batterie. Donc, ça permettait de se projeter et de rectifier des choses assez rapidement. Et puis après, évidemment, qu'on les a testés en groupe. Donc, c'est ce qui change des deux premiers albums.
D'accord, donc ok, c'est mais avec donc le fait de jouer ensemble, c'est venu comme assez rapidement ou le morceau était déjà bien constitué avant de passer à l'étape réelle?
L'étape d'enregistrement, tu veux dire?
Ouais.
Ouais, il était quand même bien avancé. En fait, on a tout enregistré en pré-prod dans notre petit studio. Et ensuite, une fois que les morceaux étaient bien terminés, on les a bossés. On a rectifié certaines choses, par exemple les partitions, on s'est aperçu que il y avait des trucs qui collaient pas avec la batterie, par exemple. Hein. Donc ensuite on a modifié ça en studio et on a même modifié effectivement des choses directement à l'enregistrement final.
D'accord, mais donc c'est un travail collectif ou c'est quelqu'un qui a avec une idée et tout le monde construit autour?
Ah ouais, non, alors pour une craie, en fait, tout le monde est libre d'apporter des compositions. Pour moi, par exemple, comme je suis un peu guitariste, j'ai apporté les riffs de Oxygène et de Cowboy qui sont présents sur Pandore. Mmh. Kouros a même fait une petite partie de batterie sur Le Bonheur en Prime. Donc personne reste dans son coin sur son instrument. Chacun respecte l'instrument de l'autre, mais tout le monde peut apporter ses idées. Tout le monde peut composer. Et voilà.
D'accord. Donc même toi, entre guillemets, nouvel arrivant, même si ça fait quelques années que t'es dans le groupe, ouais, t'as pas été mis sur le côté en train de dire tu fais ce qu'on te dit et puis point barre.
Non, non, pas du tout. Il y a une grande démocratie dans le groupe et c'est vraiment l'humain qui prime en premier avant la musique.
Et donc en fait là sur l'album vous arrivez avec je sais pas 20-25 chansons et après vous faites le tri ou comment ça se quelle quantité de matière vous obtenez?
Là pour Pandore on avait je crois 13 morceaux. Il y en a un qu'on a décidé de ne pas garder parce qu'il correspondait pas trop à l'album, c'était un peu un ovni, mais c'est sûrement un morceau qu'on gardera pour le quatrième album. Mais sinon on avait 13 morceaux au final et on en a gardé 12.
Avec, en ayant parlé avec le groupe avant, un objectif clair de faire ces chansons assez relativement courtes, 3-4 minutes, assez rentre-dedans, direct, sans, comment dirais-je, sans mayonnaise inutile, enfin voilà.
Ouais, c'est ça, bah, quand on compose, Kouros me dit souvent, non, ça va pas, c'est pas assez efficace. Donc c'est vrai, ce qu'on recherche dans InCry, c'est l'efficacité. Et pas à faire passer par des chemins inutiles, c'est vraiment on rentre dedans et voilà, c'est tout, point barre.
D'accord. Au niveau des paroles, c'est vraiment Kouros ou c'est aussi un effort collectif?
Alors là, non, par contre, les paroles, une fois que les morceaux sont composés, Kouros s'isole et compose les paroles tout seul. Après, on lui dit par exemple ce qui va pas ou ce qui n'irait pas, mais en général, c'est assez rare.
D'accord. Là, on voit bien, à part à travers les différents thèmes ou même le titre Pandore, que ouais, c'est important pour vous de un peu de parler du monde réel, pas de partir dans des délires, Donjons et Dragons. Là, il y avait vraiment l'idée ou même les discussions entre le groupe sur les nouvelles techno et comment ça va les nouvelles technologies, je sais pas, Internet, etc. et comment ça va tourner.
Ouais, c'est ça. En fait, alors par contre. Pour Monde Virtuel, qui parle effectivement des nouvelles technologies, c'est Laurent Carilla, TikTok, qui a apporté ces paroles. Donc ça vient pas directement de nous. Mais sinon, oui, ça vient de nous. Tout le reste vient de nous.
Et pourquoi spécifiquement bosser avec Carilla?
Alors, c'est pas nous qui avons choisi de bosser avec lui, c'est plutôt lui qui avait très envie d'écrire pour InCry. Comme on s'est lié d'amitié avec lui. Et ensuite, musicalement, il a voulu nous demander s'il pouvait faire des paroles pour un de nos futurs morceaux, et on a accepté. Voilà. Donc, Laurent Carilla a envoyé des paroles à Kouros, et Kouros les a légèrement modifiées, et voilà, ça roulait.
D'accord. J'ai l'impression que souvent, la première chanson composée donne un peu le thème général ou la première impulsion au disque. C'était quoi le premier titre composé pour Pandore?
Le premier titre composé, c'était Oxygène, donc c'est le premier titre de l'album. Mmh. C'est le riff principal, je l'avais composé en fait, que j'avais envoyé à Noob et qu'il l'a entre guillemets incraïsé. Donc c'est vrai qu'il lance bien les hostilités.
D'accord, il y a aussi un gros débat dans le groupe sur le choix du tracklist, de quelle chanson va être dans tel ordre, etc. Enfin, c'est comment ça se passe ce genre de choix?
Ouais, c'est vrai que pour Pandore, on s'est pas mal pris la tête pour le tracklist. On en a eu 3-4 différents. Bon, on essaye d'équilibrer en fait entre les morceaux efficaces, moins efficaces, les morceaux qui pètent plus, qui pètent moins. Ouais, on essaye de faire un mix toujours dans l'efficacité.
D'accord. Donc toujours sur Monde Virtuel, vous avez tourné une vidéo, vous avez mis à disposition.
Oui.
Qu'est-ce que tu peux nous en dire en général, comment ça s'est passé et comment ce type d'exercice est perçu pour toi ou même peut-être dans le groupe en général?
Alors pour Monde Virtuel, en fait, le clip a été fait par Hugo Haribar, qui est un infographiste. Mmh. Et donc on lui a donné simplement les thèmes principal de ce morceau, en lui donnant quelques directives, et en lui donnant les paroles aussi, également, évidemment, comme c'est une lyrique. Et donc lui, ensuite, on lui a laissé carte blanche.
Et donc vous avez vu le résultat final après ?
Tout à fait, on a vu que le résultat final, et ça nous plaisait tout de suite, donc on a validé.
D'accord, ça a l'air simple comme ça. Vas-y.
Bah simple, oui, j'ai envie de dire, parce que on a choisi Hugo et puis il a fait le taf, quoi. Donc bon, simple pour lui peut-être pas, mais pour nous en tout cas, ouais, ça a été simple. On n'avait pas de prise à tourner nous-mêmes avec le groupe, c'est vraiment de l'infographie pure, donc on l'a laissé à Hugo.
Et lui, vous l'aviez choisi parce que vous l'aviez déjà vu son travail, il est venu vers vous, enfin là aussi, comment
ouais,
ça s'est passé?
Tout à fait, en fait, c'est moi qui avais remarqué son travail sur Deepinate, le groupe à Stéphane Burier, Lost Blast, il avait fait des lyrics pour Lost Blast et Deepinate, et on avait choisi, comme premier clip, de sortir une lyrique, donc voilà, on a choisi Hugo, ça s'est fait naturellement.
Il y a au niveau clip vidéo, il y a des suites de prévues ou
Alors il y a Cannibal.
Toujours en infographie ou
Non, alors Cannibal est sorti le 28 octobre. Ah. C'est un clip qu'on a tourné avec Benjamin Capelletti. Donc voilà, avec des images tournées en live et un scénario. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir sur YouTube.
Ah bah ouais. Et donc ça, donc c'est un exercice très différent, bah donc du premier où entre guillemets vous avez juste impulsé la chose. C'est agréable comme exercice ou c'est a priori beaucoup de répétitions, on refait et ça devient fatigant au bout d'un moment ou
L'enregistrement lui-même s'est fait assez simplement. Benjamin Capelletti qui a fait le clip est très professionnel. Après, c'est vrai qu'en amont, on a eu 2 semaines de préparation pour trouver les costumes, le lieu, les horaires et toutes ces choses-là. Donc c'est vrai qu'il y a eu une très grosse implication pendant 2 semaines. Et après, c'est Benjamin qui crée les rênes sur place pendant le tournage du clip.
D'accord. Ça représente quand même tout ça, enfin tous ces clips, c'est un... C'est quand même un budget, c'est un investissement pour le groupe. Est-ce que dans le business actuel, enfin ou le en tout cas le monde actuel, il faut passer à nouveau par de l'image?
Ben ouais, le truc c'est que tout le monde est sur YouTube, sur Facebook. Dès qu'ils voient un texte avec attention sorti d'un album, ça les interpelle pas forcément. Alors que si tu rajoutes un support vidéo, déjà c'est la classe, hein, j'ai envie de dire, tu passes beaucoup plus facilement sur les webzines, les radios, les choses comme ça, et puis ça permet d'apporter un univers aux morceaux qu'on comprendrait pas forcément, alors qu'avec les images, tu comprends beaucoup mieux le morceau.
D'accord, donc ok. Bon, moi, un aspect qui m'intéresse toujours beaucoup, c'est la pochette.
Ouais.
Donc là, enfin, elle est simple, mais à la fois, je dirais, claire. Bon, on comprend, voilà, les références à la boîte de Pandore, etc. Là aussi, comment ça se crée dans le groupe? Enfin, comment ça génère? C'est vous parlez de la pochette. Il y a quelqu'un qui sort un concept, une idée. Enfin, voilà.
La pochette, ça a été assez simple en fait. On a trouvé une personne qui est infographiste et on lui a donné l'album avec les paroles. Le titre des morceaux et des mots-clés entre guillemets à respecter. Donc après, c'est pareil, c'est comme le clip, il nous a envoyé le final et on a validé tout de suite, ça nous plaisait.
D'accord, en fait vous faites bosser les autres, quoi.
Tout à fait.
un élément qui me semble important en général, mais en particulier sur ce disque, c'est qu'il y a toujours... Il me semble qu'il y a toujours pour le groupe l'idée de pas trop se prendre au sérieux, de garder une espèce de légèreté. Et là, il y a le titre Tigresse, par exemple, qui est dans ce veine-là. C'est important pour le groupe.
Ouais, des fois, on a envie de se lâcher. Bon, les paroles viennent surtout du chanteur, comme je disais. Ouais. Après, c'est vrai qu'instrumentalement, c'est vrai que Tigresse, c'est un peu un ovni dans Incry. On n'a pas l'habitude de jouer des morceaux comme ça. Et même Cowboy, c'est quand même un ovni. Ça fait du bien, quoi. On est aussi là pour se rendre la gueule, pour composer, pour faire de la zik. Donc, ouais, c'est clair qu'on a voulu se lâcher.
Et justement, dans le choix de la tracklist, il n'y a pas un moment, un doute sur celle-là, de se dire est-ce que celle-là on la met ou on la met pas?
Non, parce que en fait, si tu veux, Tigresse, par exemple, ne figurait pas sur l'album au début. On a décidé d'enregistrer deux autres morceaux parce que on sentait que 8 morceaux ça suffisait pas. 10 morceaux ne suffisaient pas. On avait envie d'un peu plus et de quelque chose de plus punch. Donc voilà, on a composé Tigresse et finalement on l'a gardé parce que ça nous plaisait.
D'accord. L'idéal quand il y a un album qui sort ensuite, c'est que c'est des concerts.
Ouais, tout à fait.
Qu'est-ce qui est déjà prévu et enfin quelles sont les perspectives pour le groupe?
Alors les concerts de prévu, on joue le 5 décembre en première partie de Massisteria avec Sorogis au plan.
Sympa.
Donc ça va être une super date. Et ensuite on se pose pour créer un show pour 2016. Donc voilà, les dates vont arriver en 2016, mais pour l'instant on y travaille.
Et sur 2016, vous essayez de voir large ou enfin voilà, le but c'est aussi de pouvoir tourner un maximum et décrocher quelques jolis festivals l'été prochain.
Ouais, bah tout à fait, on espère. En tout cas, c'est le but principal. Ouais, on espère rencontrer encore plus de personnes, tourner encore plus et pourquoi pas encore une fois décrocher un label. Pourquoi pas.
Tu disais donc t'es dans le groupe depuis 2-3 ans et donc t'as fait toute la tournée, une grande partie de la tournée rock.fr avec des grands donc aussi bien des entre guillemets des petits concerts ou des gros événements comme Sonisphère.
Ouais, tout à fait.
En termes de entre guillemets de vue des coulisses ou voir les autres travailler, etc. Est-ce qu'il y a un groupe ou un artiste en particulier qui t'a impressionné?
Bonne classe. C'était vraiment super cool de partir en Allemagne parce que c'est un pays que j'adore. J'adore la culture allemande et il y a eu vraiment un feeling musical et humain avec Vandenplatz. C'était vraiment une date super. Et c'était vraiment boire leurs paroles. C'était vraiment des mecs très humains et ça était aussi avec le Sonisphère un de mes meilleurs moments.
Et pourtant, et au niveau du public, ça s'est bien passé parce que c'est très différent. Ils sont pur metal prog.
C'est clair. L'Allemagne, c'est très rock et metal, mais.
Vous chantez en français.
Ouais, voilà, ils ont rien pigé, mais à la fin du concert, Andy Kuntz, le chanteur de Vandenplatz, nous a quand même dit qu'il avait des très bons retours, notamment des spectateurs ou du gérant de la salle, donc ça s'est plutôt bien passé en fait finalement.
D'accord, bon bah, espérons qu'il y ait d'autres souvenirs qui arrivent. Pour terminer nos interviews, on a toujours un petit quiz, enfin histoire de mieux connaître le musicien.
Ouais.
Chanson préférée de tous les temps?
Chanson préférée de tous les temps?
Ouais.
Waouh. Chanson préférée. Dolast.
D'accord. Ah, ouais. Alors c'est toujours bon. Après toi tu viens d'arriver, mais est-ce qu'il y a une chanson en particulier du répertoire d'Incry que tu n'aimes pas du tout?
On et on de rock.fr.
D'accord. Premier album rock acheté?
C'était Live Erreur de Korn.
D'accord. Et le dernier qui t'a accroché l'oreille?
Lindemann, Skill in Peace.
D'accord. Imagine sur le prochain album, t'as le choix d'un invité, mort ou vivant, que tu veux. Tu choisis qui?
Je pense que je choisirais le chanteur de Five Finger Death Punch, qui est un groupe que j'apprécie beaucoup.
D'accord.
C'est-à-dire Ivan Moody.
Ouais. Sacré personnage. Tu as la possibilité de te produire en concert avec Incry n'importe où dans le monde. Tu choisis quoi?
Les pays de l'Est.
D'accord. Et pour terminer, c'est quoi l'album de l'année pour l'instant pour toi?
Lindemann, qui est une piste.
D'accord.
C'est vraiment celui que j'écoute en boucle.
Ok, en attendant le prochain Rammstein.
Tout à fait.
Bon, ben, merci à toi et puis bonne soirée et tous nos voeux.
Ouais, merci à toi, merci.
À bientôt.
Ciao.
Ciao.